je vais travailler, mais vous allez aussi travailler. Parce que je vous ai amené quelques parfums de la Bible, hein, que nous allons sentir ensemble, et que vous allez, vous allez parler, commenter autour de ces parfums. Parce que quand on dit que ce que disait le Père tout à l'heure, qu'en fait tout est lié, hein, et que le parfum c'est aussi un outil de relation. Hein, entre les personnes, c'est aussi un moyen de relation entre l'homme et Dieu. Voilà, et c'est ce que nous allons découvrir ce soir, en quoi le parfum peut être justement cet élément de relation entre l'homme et Dieu, ou Dieu et l'homme. Hein, c'est la réciproque. Voilà. Alors, la première chose, hein, commence en fait par une approche un peu comment étymologique, à savoir le mot parfum. Voilà. Ah oui, d'accord, je vous donne le plan. Donc, vous comprenez pourquoi elle vient avec moi. Alors voilà le plan, vas-y. Donc il y aura 5 parties, hein, l'histoire du parfum, parfum et religion au pluriel, les parfums dans la Bible, les principaux parfums qui sont cités dans la Bible et que l'on sentira ensemble, parfum et liturgie, une catéchèse parfumée. Voilà, hein. Voilà. Donc, le menu est copieux. Alors donc, le mot parfum. Le mot parfum, en fait, provient du latin perfumare ou parfumé. C'est-à-dire, de manière littérale, par la fumée ou à travers la fumée. Il est évident que il n'est pas facile de voir le lien qu'il peut y avoir entre une fumée, hein, que l'on imagine une odeur un peu désagréable, un peu âcre, et les parfums qui sont offerts à Dieu dans nos liturgies, ou offerts entre nous dans ces beaux flacons qu'on se l'offre à Noël. Ou, voilà. Donc, quel lien il y a entre les deux ? Pour comprendre cette évolution, hein, en fait, entre ce sens littéral et le mot parfum d'aujourd'hui, il faut remonter aux origines de notre humanité. L'homme, au cours de nombreuses étapes de son évolution, a petit à petit réalisé que des forces qu'il ne maîtrisait pas, en fait, avaient un impact important sur sa vie. Et que ces forces provoquaient des catastrophes, pouvaient même entraîner la mort. Et ces forces pouvaient être climatiques, terrestres, en fait, donc je pense aux éruptions volcaniques, aux tremblements de terre, aux inondations, tout un tas de choses comme ça. Et l'homme a fini par croire que ces manifestations était l'objet de puissance qui, en fait, dont il avait besoin de s'accorder les bonnes grâces de façon à être protégé. Voilà. Et ainsi naquit l'idée d'offrir à ces puissances, hein, à ces dieux invisibles, je dirais, des offrandes de toutes sortes. Hein. Les prémices, hein, de tous les produits, un fruit, un morceau de gibier, voilà, tout ce que l'homme pouvait ramasser, hein, de par lui-même. Et on peut considérer que cette démarche d'offrande d'une part de ce que l'homme recueille vers une puissance, une forme de divinité, comme une forme de religion, dans le sens où elle exprime la recherche et l'élaboration d'une relation entre l'humanité et une puissance divine. Hein, quand on parlait que tout est lié, on est dans le lien, voilà. Hein, donc, et c'est Cicéron, hein, qui donne cette première définition du mot religion, je le cite, « comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte ». Mais à qui rendre un culte? Et où? Comme ces catastrophes venaient souvent du ciel, et que également dans le ciel brillaient les grands astres, hein, Ce fut donc le ciel, lieu mystérieux, méconnu, qui fut identifié comme le lieu de résidence de ces puissances. Ciel que petit à petit, l'homme divinisa. Se posa alors le problème d'établir un lien, j'allais dire, presque physique, entre le ciel et la terre. Comment contourner les lois de la gravité ? Parce que toute offrande restait physiquement sur le sol, alors que les dieux étaient dans le ciel. Comment faire monter ces offrandes ? Afin que ces offrandes soient le plus agréables possible, que les divinités puissent en profiter, les recevoir. C'est la découverte du feu qui allait apporter une réponse à cette question. En effet, nous savons tous que cette découverte a révolutionné la vie des hommes préhistoriques. Non seulement elle leur a permis de se chauffer, de cuire leurs aliments, d'améliorer les matériaux dont ils avaient besoin pour la chasse et tout un tas de choses, mais également, ils se sont rendus compte qu'en brûlant, il y avait une fumée qui se produisait. Et cette fumée qui s'élevait vers le ciel pouvait devenir un excellent moyen de créer ce lien visible entre le ciel et la terre. Voilà. Ce lien avec les dieux que l'on voulait honorer. Et alors, on découvre petit à petit qu'en jetant sur ces braises des brassées de végétaux odorants, de plantes, des choses comme ça, eh bien, dégageaient des senteurs particulières. Ainsi, à travers la fumée, par la fumée, eh bien, l'homme pouvait donc faire monter vers le ciel, vers ses divinités, une offrande moins matérielle et donc en quelque sorte plus spirituelle. Voilà. Je passe des étapes. Alors tout ce que je vous ai dit là, c'est pas une élucubration personnelle, c'est les travaux d'Yves Coppens, voilà, qui a beaucoup, vous connaissez tous, et il a fait tout un travail justement sur l'homme et sa relation à la mort, et en fait je me suis inspiré de ses travaux pour cela. Voilà. Donc je passe pas mal de périodes, et pour illustrer ce que je viens d'expliquer, nous allons rejoindre les Hébreux, qui beaucoup plus tard adoptèrent eux aussi ces pratiques religieuses. Et dans ce passage de la Genèse, Genèse au chapitre 8, versets 20 à 31, nous ne sommes pas si éloignés de ce que nous venons d'expliquer. C'est le passage de Noé. Je cite. Noé construisit un autel en l'honneur de Yahvé. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il en offrit un sacrifice par le feu sur cet autel. Yahvé sentit la bonne odeur, et il dit en son cœur : Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne recommencerai plus à frapper les êtres vivants comme je l'ai fait. On voit bien ce lien entre le châtiment que Dieu avait prévu pour toute la terre et comment l'offrande faite permet en fait à Dieu de revenir sur sa décision et donc d'épargner Noé, sa famille et tout ce qu'ils avaient. Donc dans ce passage, ce lien entre offrande et protection ou miséricorde est évident. Mais pour autant, dans ces rites qui vont perdurer pendant des siècles, il s'agit uniquement d'animaux et donc d'odeur de viande brûlée. Et même si cette odeur est agréable à Yahvé, puisque Yahvé sentit la bonne odeur, il n'est pas encore réellement question de parfum. Deuxième chapitre. Parfum et religion. Pour parler vraiment de parfum, puisqu'en fait... un parfum, c'est pas uniquement, je dirais, une odeur. Un parfum, c'est un mélange, c'est quelque chose de composé. Et donc, pour parler vraiment de parfum, il nous faut attendre 4000 ans avant Jésus-Christ chez les Égyptiens, pour trouver les premières traces d'utilisation de plantes aromatiques dans des célébrations religieuses, mais de manière mélangée, hein, où étaient utilisées des branches, des herbes, des racines, des gommes, hein, ou des résines, pour en fait, adapter, hein, les différentes odeurs selon les cérémonies, selon les dieux qui étaient honorés. Et donc, Ra, hein, qui était le dieu principal des Égyptiens, eh bien, chaque jour, on brûlait un mélange particulier, hein, qui s'appelle le kifi, entre l'aurore, le zénith et le crépuscule. Voilà. Et donc, ce mélange très odorant était composé de myrrhe, voilà, qu'on va retrouver dans la Bible après, de lentisque, qui est un petit arbuste qu'on retrouve beaucoup en Provence, hein, qui est une odeur un peu verte, un peu âcre, baies de genévrier, de graines de fenugrec, hein, tout ça c'est des noms qu'on connaît, de pistaches, de souchets comestibles, et le tout broyé, mélangé à du vin et à une préparation cuite à base de résine et de miel. Et il nous est facile, hein, si on commence un peu à se transposer, et il nous est facile d'imaginer que dès la plus haute antiquité, ces fumées épaisses, odorantes, s'élevant en tourbillon vers le ciel, accompagnées de prières, représentaient un symbole fort, porté par la conviction que des vœux adressés aux dieux leur parviennent plus vite s'ils sont portés par ces fumées odorantes au parfum agréable. C'est donc dans ces temples que se développa petit à petit l'art de la parfumerie, où différents mélanges correspondaient à des rites précis. Les fumées purificatrices, les fumées à la gloire des dieux, les fumées en offrande pour obtenir les grâces que l'on désirait. Mais l'art du parfum ne se limitait pas aux seules fumigations. Grâce aux diverses découvertes, hein, et propriétés de ces résines et aromates, les prêtres se mirent à fabriquer des onguents pour la toilette des statues divines et pour la momification des grands personnages. Les parfums nous viennent donc du domaine du sacré, comme offrande aux dieux et élément fondamental de l'embaumement. Mais peu à peu, pour les personnages illustres tels que les rois, les pharaons, le parfum fait son entrée dans le monde profane, paré des vertus qui lui viennent de son utilisation sacrée. Purification, thérapeutique, embaumement, apaisement, envoûtement et aussi séduction. Vous connaissez tous Cléopâtre et on connaissait son grand pouvoir de séduction, hein, qui était une grande utilisatrice d'huile parfumée dont elle se servait pour séduire ses amants, hein, César et Antoine. Alors, on est obligé de faire l'impasse un peu sur toutes les civilisations antiques, hein, qui ont toutes été utilisatrices de parfums, qui ont en fait découvert de nouvelles méthodes de purification et tout. Et pour nous concentrer, hein, sur les Hébreux, hein, puisqu'en fait on est sur une lecture parfumée de la Bible. Voilà. Chez les Hébreux, l'usage des parfums est plus tardif. Mais leur longue période, hein, d'esclavage en Égypte, hein, leur permit de connaître et de s'approprier les techniques de parfumage et d'embaumement. Moïse, par sa culture égyptienne, connaissait et utilisait les parfums. Nous en retrouvons cette trace dans le livre de l'Exode, hein, au chapitre 30, où un jour Yahvé demande à Moïse de fabriquer du parfum, d'en boire une partie, c'est ce dont on a parlé, l'aspect thérapeutique, hein, purificateur, et de mettre l'autre dans l'attente du rendez-vous de la rencontre avec Yahvé. Pour les Hébreux, le parfum était donc sacré et précieux, pour leur rite religieux, comme également présent dans leur vie quotidienne. Au début du Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, l'influence du monde arabe, par les échanges commerciaux et les croisades, va étendre l'utilisation et le succès du parfum grâce à la découverte de la distillation. Alambic. Alambic, c'est un mot arabe. C'est ce qui a permis justement la découverte de l'alcool, et donc distillation, et donc d'extraire de la part de, enfin, disons, de les résines, des branches et tout ça, le principe aromatique, hein, qui a été utilisé dans les parfums. En Europe, l'extension du christianisme fait petit à petit régresser les parfums et l'usage des cosmétiques, car trop associés à des rites païens, on vient de le voir. Voilà. Toutefois, l'utilisation des onguents, des huiles, de l'encens et de la myrrhe perdure dans la liturgie. Arrivons maintenant au cœur de notre sujet, les parfums dans la Bible. Cette introduction un peu développée était nécessaire pour mieux comprendre l'histoire, le rôle et la symbolique du parfum dans les religions et mieux introduire pourquoi les parfums sont si présents dans la Bible. Tout d'abord, d'où venaient ces parfums? Un passage de la Genèse nous renseigne à ce sujet. Un verset tiré de l'histoire de Joseph, vendu par ses frères à des nomades, est intéressant, car il nous précise que déjà un commerce des résines et des plantes à parfum existait au Moyen-Orient. Les pays de la corne de l'Afrique, la Nubie, ceux du Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, ainsi que les rivages de la Méditerranée, récoltaient des gommes, cultivaient des plantes, qui étaient ensuite acheminées à dos de chameau dans de longues caravanes qui traversaient les différents pays vers l'Égypte, importants consommateurs de parfums à l'époque. Et là, je cite un passage de la Genèse, au chapitre 37, verset 25. Ils s'étaient assis pour prendre leur repas quand, levant les yeux, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites qui arrivait de Galaad. Leur chameau était chargé de résine et de parfums précieux qu'ils transportaient en Égypte. Galaad, situé en Jordanie, près du Jourdain et du mont Hébron, était une région très fertile et productrice de gommes odoriférantes. L'Éthiopie et l'Érythrée, l'ancienne Nubie, étaient aussi grandes pourvoyeuses de produits odorants, parmi lesquels la civette, que l'on utilise encore aujourd'hui. Les parfums de Guerlain sont très consommateurs de ce parfum. La civette, qui est une sorte de petit chat sauvage, dont le parfum puissant était considéré comme aphrodisiaque et était acheminé dans des cornes de buffle pour ne pas s'altérer. C'est un de ces voyages qui nous est relaté dans ce passage du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 9 et au verset 1. La reine de Saba avait entendu parler de Salomon, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par ses énigmes. Elle arriva avec d'énormes richesses, des chameaux chargés de parfums, de l'or en grande quantité, ainsi que des pierres précieuses. Dans ce verset apparaît une dimension nouvelle de l'usage du parfum, la notion de cadeau et de séduction. Le père tout à l'heure parlait de sensualité. Voilà. Le parfum commence à faire apparaître cette notion. Et nous savons combien ils furent efficaces sur Salomon. Ce double usage du parfum comme objet de cadeau et de séduction est toujours bien présent aujourd'hui dans nos relations sociales. Jusqu'à présent, nous ne parlions que de parfums, de résines odorantes, sans précision sur l'origine botanique de ces parfums. L'encens, le plus connu, est pour la première fois mentionné au début du livre de l'Exode, ce qui confirme le fait que c'est en Égypte que les Hébreux ont découvert cette résine et qu'ils l'ont gardée pour leur propre rite. Dans ce passage de l'Exode, au chapitre 25, Yahvé demande à Moïse toute une liste d'offrandes que les Hébreux devaient lui offrir. Et on retrouve là également, de manière évidente, ce que nous évoquions tout à l'heure pour le peuple primitif qui offrait aux dieux les prémices de leur récolte. Mais là, par contre, dans une relation radicalement différente, je dirais même opposée, puisque ce n'est plus l'homme qui décide du choix de ce qu'il offre aux divinités, mais là c'est Dieu, le Dieu unique, qui demande aux hommes les offrandes qu'il désire pour lui. Je cite, donc c'est le verset 1 au chapitre 25. Yahvé s'adressa à Moïse et lui dit « Tu demanderas aux Israélites de verser une contribution pour moi et tu recevras toutes leurs offrandes volontaires. Voici les produits que tu accepteras en contribution. » Je ne vous ai pas tous cités. L'or, l'argent et le cuivre, l'huile pour la lumière, le parfum pour l'huile et pour l'encens. Quelques chapitres plus loin, Yahvé donne ses instructions à Moïse pour la préparation et l'utilisation de cet encens. On a bien vu que les parfums, c'était quelque chose de mélangé, ce n'était pas quelque chose de pur. Voilà. C'est dans ce passage qu'est venu, c'est de ce passage, pardon, qu'est venu le nom générique d'encens, tel que nous les utilisons dans nos liturgies, et qui sont aussi des mélanges odorants adaptés aux différentes fêtes et temps liturgiques. Voilà. Chapitre 30, verset 34. Yahvé dit à Moïse, « Prends en quantité égale de la résine odoriférante de styrax, du galbanum odoriférant, et de l'encens pur. » Tous ces produits, on s'en sert encore en parfumerie aujourd'hui. « Et tu en feras un parfum à brûler comme en font les parfumeurs. » Salé, sans mélange et sain. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage et dans la tente du rendez-vous où je viens te trouver. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez pas pour vous de l'encens semblable à celui-ci, car c'est un encens réservé à Yahvé. Celui qui en ferait un semblable pour le respirer serait retranché de son peuple. Pour la première fois, il est précisé, de manière claire par Yahvé, la distinction entre le parfum réservé pour le sacré et celui pour le profane. Le sel, quant à lui, était employé comme conservateur et pour aider à la combustion. Et ce mélange, comment était-il brûlé? Toujours dans la Genèse, tu feras un autel pour faire fumer l'encens. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée, il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Là, chaque matin, Aaron fera fumer l'encens parfumé. Il arrangera les lampes et fera brûler l'encens. Quand Aaron allumera les lampes à la tombée du jour, il fera encore fumer cet encens perpétuel devant Yahvé. Cela sera pour les générations et les générations. Vous ne ferez pas brûler sur cet autel un encens profane. Vous n'y ferez non plus ni sacrifice par le feu, ni sacrifice ordinaire, ni offrande de liquide. Je dirais que c'est un premier texte liturgique qui signifie l'usage de l'encens comme offrande perpétuelle à Dieu. Offrande qui n'est plus le seul fait du désir de l'homme d'obtenir des bonnes grâces, mais bien la réponse à une demande de Yahvé. De lui manifester respect, confiance et adoration. Nous sommes passés de la superstition à la reconnaissance du Dieu unique et à son adoration perpétuelle. C'est ce que nous retrouverons plus tard et encore aujourd'hui dans la prière de l'Église, louange et adoration perpétuelle offerte à Dieu par tous les priants. Et de plus, la distinction entre parfum et holocauste demandée par Yahvé signifie deux aspects bien distincts de notre relation à Dieu. Expiation, purification et adoration. Sacrifice et offrande. Séparés dans l'ancienne alliance, mais unis, rassemblés dans le Christ dans la nouvelle alliance, qui en sa personne a fait offrande de sa vie en signe de respect et d'obéissance à son Père dans le sacrifice de la croix pour le pardon de nos péchés. Qui dit liturgie, dit personne en charge de cette liturgie. Qui donc avait la charge de faire monter ces fumées bien distinctes vers Yahvé? Nous avons une réponse dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 6, verset 34. Aaron et ses fils faisaient fumer les sacrifices sur l'autel des holocaustes et sur l'autel des parfums. Ils s'occupaient de tout le service des rites sacrés et du rite de l'expiation pour Israël, selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Ce sont les prêtres, ceux qui ont reçu l'onction, qui sont en charge du temple de faire brûler l'encens, parfumé pour l'autel de Yahvé dans le Saint des Saints où se trouvait l'Arche d'Alliance. Voici introduit d'une certaine manière la notion de ministère, c'est-à-dire d'homme choisi parmi le peuple pour assurer les rites de dévotion à Dieu. Dans le Ben Sirach, dans le Siracide, chapitre 45, verset 16, Sirach dit « Aaron a été choisi parmi tous les vivants pour présenter l'offrande au Seigneur avec l'encens d'agréable odeur, afin que le Seigneur se souvienne de son peuple et lui pardonne ses péchés. » Les rites évoluent et se simplifient. et l'on voit apparaître l'usage de l'encensoir. Il est mentionné pour la première fois dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 17. « Prenez chacun votre encensoir et mettez dedans de l'encens, puis chacun fera l'encensement devant Yahvé. » Il est mentionné 250 encensoirs à ce moment-là. « Toi et Aaron, vous aurez aussi chacun votre encensoir. » Un autre passage dans le livre de la Genèse nous confirme le rôle des odeurs et de leur efficacité pour obtenir la miséricorde de Dieu, son pardon. Dieu, touché par la bonne odeur du sacrifice, renonce au châtiment envers les hommes. C'est la miséricorde de Dieu qui s'exprime ainsi dans le passage que nous avons lu tout à l'heure de la Genèse, dans l'histoire de Noé. Yahvé sentit la bonne odeur et se dit en son cœur « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. » Et je ne recommencerai plus à frapper les êtres vivants comme je l'ai fait. » Plusieurs passages de l'Ancien Testament font ainsi référence à cette bonne odeur des sacrifices ou de l'encens, ou à l'odeur agréable sentie par Dieu, qui l'incite à la miséricorde, au pardon des péchés. Mais alors, m'est venue une question. Si Dieu est si sensible aux odeurs agréables des sacrifices, aux parfums qui s'élèvent vers lui, c'est que Dieu aussi a du nez. Pas dans un sens anthropologique, bien sûr, mais spirituel. Mais qui est ce Dieu si sensible aux odeurs, qui a besoin de l'odeur d'animaux sacrifiés, de parfums voluptueux, pour décider de ne plus détruire la terre? Est-ce vraiment l'odeur de la viande grillée qui a su le convaincre? Ou n'a-t-il pas senti en même temps un autre parfum, plus discret? Le parfum du respect, de l'adoration qui anime Noé et à travers lui toute l'humanité. Un parfum qui continue de s'élever malgré le péché. Un petit parfum presque insensible, mais que rien n'efface. Et qui rend l'homme capable, toujours, de revenir vers Dieu, même quand il lui a tourné le dos. Un petit fumet qui, jamais, ne cessera de monter jusqu'au ciel. Un parfum par lequel Dieu et l'homme sont liés à jamais. Et c'est ce parfum si particulier de la foi de l'homme, même la plus discrète, qui est agréable à Dieu et lui fait renoncer à tous ses châtiments. Cependant, l'homme doit être conscient que dans notre monde, le mal rôde. Et en effet, même si ses pensées sont mauvaises dès sa jeunesse, il doit faire tout ce qu'il peut pour repousser le mal loin de lui. Et l'on retrouve dans ce passage de Tobie le rôle de purification du parfum, pas uniquement contre les mauvaises odeurs, mais surtout contre les mauvaises pensées. Des marges de purification de notre vie, des marges de conversion à laquelle tout baptisé est appelé. Donc, chapitre 6 dans le livre de Tobie au verset 17. Lorsque tu seras entré dans ta chambre, prends le foie et le cœur du poisson et pose-les sur les braises de l'encens. Ça doit être une odeur très particulière. Hein. Je vous rassure, je n'ai pas essayé. L'odeur se répandra, ça on s'en doute bien, et dès que le démon la sentira, il prendra la fuite. Je pense qu'il ne devait pas être le seul. Je t'assure qu'on ne le reverra plus jamais rôder autour de la jeune fille. Mesdemoiselles, si vous voulez essayer. Mais bon, ce qui est intéressant dans ce passage de Tobie, c'est de montrer que toutes ces fumigations avaient toujours un sens spirituel. Elles n'étaient pas là uniquement, je dirais, pour le plaisir des personnes, même quand les odeurs n'étaient pas agréables, mais vraiment dans un désir de purification. Nous avons évoqué au début les vertus thérapeutiques et de conservation de certains produits aromatiques qui étaient utilisés par les Égyptiens pour embaumer les morts. Nous retrouvons la trace de ces pratiques chez les Hébreux, là aussi dans le livre de la Genèse, au chapitre 50, versets 2 et 3. Joseph ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours. Car tel était le temps nécessaire pour l'embaumement. Ou dans le livre des Chroniques, dans le deuxième livre des Chroniques, Asa se coucha avec ses pères. Il mourut dans sa 41e année, dans la 41e année de son règne, on l'enterra dans le tombeau qui s'était fait creuser dans la cité de David. On le coucha sur un lit tout recouvert d'aromates et de parfums, préparé à la manière des parfumeurs, et l'on fit en son honneur un feu magnifique. Le parfum, objet de culte pour Dieu, pour nos morts, de cadeaux, de purification, d'offrandes, mais aussi de séduction, de sensualité, car lié à la beauté. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, verset 12. Durant 12 mois, les jeunes filles se préparaient. Pendant 6 mois, elles se parfumaient avec de l'huile de myrrhe, et pendant les 6 autres mois, avec des parfums et des produits de beauté pour femmes. Après ce temps, occupées par les soins de beauté, chaque jeune fille, à son tour, devait se rendre auprès du roi. Alors j'ai trouvé une interprétation personnelle à ce passage d'Esther comme une image de deux temps qui étaient donnés aux jeunes filles pour se préparer à la rencontre de leur roi. Deux temps pour nous baptiser, que nous pourrions rapprocher de l'Avent et du Carême, qui nous sont aussi donnés dans notre vie de chrétien pour nous préparer notre cœur, de rendre plus beau, sentir le mieux possible, avec la plus belle odeur, la meilleure odeur, pour pouvoir rencontrer nous aussi notre roi, le Christ, Dieu humble qui à Noël se fait homme, et de notre roi souffrant, Dieu humilié, qui en Jésus donne sa vie sur la croix. Une autre propriété importante du parfum est son pouvoir d'évocation, de susciter la mémoire, de rendre présent par sa puissance, justement évocatrice, un souvenir et même une personne, et ceci parfois de manière très précise. Le souvenir d'une personne, et je pense que tous vous avez fait cette expérience, est lié à son odeur. Et lorsque on se retrouve en contact avec l'odeur de cette personne, on a presque l'impression que physiquement, elle est là. Alors c'est peut-être ce qui pousse souvent pas mal de jeunes filles à prendre comme premier parfum le parfum de leur mère, justement pour faire perdurer cette présence maternelle avant qu'elles choisissent leur propre identité comme olfactive. Voilà. Alors on retrouve ça dans le cyracide aussi. La mémoire de Josias a un parfum d'encens préparé avec tout l'art du parfumeur. C'est comme un miel doux à la bouche. C'est comme une musique au milieu des festins et des vins. Et c'est vrai que la réminiscence d'une présence comme ça par sa puissance olfactive, eh bien c'est souvent quelque chose qui provoque une émotion forte. C'est quelque chose qui est apaisant, qui est doux. Rappelez-vous ce passage très connu de Proust, de Marcel Proust, dans sa Madeleine, où il a vécu une expérience sensorielle, olfactive, très puissante, étant enfant. Et lorsqu'il a revu jeune homme des années plus tard, eh bien, monte en lui les mêmes émotions. Il a même l'impression de la présence de sa mère à ses côtés, tellement cette émotion était forte. Voilà. Je dirais que, d'une certaine manière, est-ce que l'encens n'est pas l'usage de l'encens, eh bien justement, n'est pas uniquement le fait de manifester ce que l'on a dit tout à l'heure, respect, adoration, mais aussi de signifier une présence. Faites sentir de l'encens, on va faire l'expérience tout à l'heure, à une personne comme ça. Et même si elle n'est pas allée dans une église depuis très longtemps, vous allez voir qu'immédiatement, elle va vous dire « ça sent l'église ». Ça sent l'église. Puisqu'en fait, peut-être moins pour les jeunes générations, aujourd'hui, c'est vrai, mais nous étions tout jeunes, baignés dans ces odeurs d'encens. Et donc, en fait, cette réminiscence est très très forte. Voilà. Et bien voilà. La messe, le sacrement de l'Eucharistie, est pour nous chrétiens ce sacrement qui nous fait revivre chaque dimanche la mort et la résurrection du Christ, et qui nous redit la présence du Christ ressuscité, vivant au milieu de nous, aujourd'hui, Et cela, même si nous ne le voyons pas physiquement. Voilà pourquoi l'encens qui s'élève au-dessus de l'autel est à la fois signe d'adoration, mais également signe d'une présence. Comme nous l'avons vu, le parfum est très présent et signifiant dans l'Ancien Testament. Il l'est peut-être moins dans le Nouveau, mais sa symbolique reste tout aussi forte. Bien sûr, là, le passage que nous connaissons tous, on l'a entendu il n'y a pas tellement longtemps, lors du dimanche de l'Épiphanie, c'est celui de l'adoration des rois mages devant Jésus, enfin des mages devant Jésus dans l'évangile de Matthieu. Je cite, « Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et ils se prosternèrent pour l'adorer. Ils ouvrirent alors leur coffre et lui firent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or comme à un roi, de l'encens pour honorer sa divinité, et la myrrhe pour souligner son humanité et sa sépulture, parce que c'était le parfum dont on embaumait les corps. » Rituel que nous allons retrouver plus tard dans le geste symbolique de Marie, en offrant du parfum, qui va offrir du parfum à Jésus. Alors là, il y a une polémique, parce que quand j'ai donné cette conférence à différents endroits, il y avait des discussions sur l'identité de Marie. De quelle Marie s'agissait-il, parce qu'on va voir selon les passages dans les évangiles. Alors, est-ce que c'est Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, ou Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui est devenue la patronne des parfumeurs. Voilà. Donc, le geste de cette Marie est un événement très marquant, car il est rapporté de manière différente par les quatre évangélistes. Geste prophétique, dans le sens où il préfigure la passion et la mort de Jésus. Mort qui nécessitera l'embaumement de son corps. Enfin, il ne sera pas embaumé, justement, comme le voulait la tradition juive, puisqu'il ressuscitera avant. Matthieu, chapitre 26. Une femme s'approcha de lui. Elle portait un vase d'albâtre avec du parfum de myrrhe de grande valeur, et elle répandit le parfum sur sa tête pendant qu'il était allongé avec les invités. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. Pourquoi ce gâchis? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Mais Jésus s'en aperçoit et leur dit « Pourquoi cherchez-vous des ennuis à cette femme? Ce qu'elle vient de faire pour moi est une bonne œuvre. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Elle préparait déjà ma sépulture quand elle a versé sur mon corps ce parfum de myrrhe. En Marc, elle a fait ce qui lui correspondait. Elle a embaumé par avance mon corps pour la sépulture. Voilà. Donc on est bien dans ce lien de la myrrhe avec l'embaumement des corps. En Jean, 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, là où était Lazare, celui que Jésus avait fait se lever d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner. Marthe faisait le service et Lazare était l'un des convives aux côtés de Jésus. Or, voici que Marie prend un flacon de parfum, du vrai nard, extrêmement cher, et elle le verse sur les pieds de Jésus, puis elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, pendant que l'odeur du parfum remplit la maison. Le nard est sans doute le plus ancien des parfums orientaux connus, et on en trouve encore aujourd'hui. Il s'agit sous forme d'huile d'un parfum de couleur ambrée très épais, à une odeur très puissante. Et je pense que les parfums que l'on retrouve au Moyen-Orient actuellement s'inspirent un peu de la composition de ce parfum. C'est un parfum très rare et de grand prix, réservé aux grands personnages. Et on le trouve dans certaines traductions citées dans le livre des Cantiques. Le seul évangéliste qui rapporte ce passage qui ne rapporte pas, tu as le même texte que moi. C'est-à-dire qu'il raconte cet événement, mais de manière différente. Voilà, c'est le seul qui ne le relate pas comme annonçant la mort de Jésus, pas de manière explicite en tout cas. Car d'abord, il est le seul à ne pas nommer le nom du parfum. Voilà, donc il ne parle pas de myrrhe, donc il n'y a pas ce lien avec la notion d'embaumement. Et la première chose que fait Marie, c'est qu'elle ne répand pas le parfum d'abord, mais ce sont d'abord ses larmes hein, qu'elle verse aux pieds de Jésus. Hein. Larmes de souffrance, larmes de repentir, larmes de compassion, peut-être en pensant à ce que Jésus va vivre dans sa passion. L'évangile, l'évangéliste ne nous le dit pas. Je cite Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Il entra dans la maison du pharisien et s'allongea pour le repas. Or, dans cette ville, il y avait une femme, connue comme pécheresse. Sachant que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle se procura un vase précieux rempli de parfums. Elle se tenait en arrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Bientôt, ses larmes commencèrent à inonder les pieds de Jésus. De ses cheveux, elle les essuyait et les embrassait longuement, puis elle y versait du parfum. Luc donne à ce geste de Marie une portée théologique dans le sens où il nous permet de découvrir, de croire que le don de la vie de Jésus sur la croix est le signe de la miséricorde de Dieu, qui nous dit que le Christ est venu pour les pécheurs que nous sommes et qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Sauvés, libérés du mal, de la haine, nous pourrons à notre tour répandre autour de nous la bonne odeur du Christ, la bonne odeur de l'amour. Et je cite Ézéchiel au chapitre 20. Lorsque vous serez sortis du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblés du milieu des pays où vous avez été dispersés, vous serez pour moi comme un parfum d'agréable odeur. C'est alors que par vous, je ferai voir aux nations ma sainteté. Ou autrement, dans Siracide, hein, comme l'encens, répandez une odeur agréable. Faites éclore vos fleurs comme le lys, donnez votre parfum et chantez un cantique. Nous le retrouvons, bien sûr, ça aussi dans le Nouveau Testament, hein, dans un passage bien connu hein, de saint Paul aux Corinthiens, hein, dans la deuxième lettre. Remercions Dieu, qui nous entraîne toujours dans la marche victorieuse du Christ et se sert de nous pour répondre en tout lieu le parfum de sa connaissance. Si le Christ est la victime, nous sommes l'odeur du sacrifice qui monte vers Dieu, nous sommes la bonne odeur du Christ. Mystère de la Nouvelle Alliance qui nous fait découvrir que nous sommes appelés à devenir la bonne odeur du Christ, comme le Christ, offrande véritable au Père, qui fut pour Dieu le parfum unique, suprême, victime offerte pour nous donner la vie. Nous sommes en lui, par lui, avec lui, l'encens offert à Dieu. Nous sommes le parfum agréable à Dieu pour le pardon de nos péchés. Par la miséricorde de Dieu et par le sacrifice de son Fils, nous sommes devenus la bonne odeur du Christ. Alors je me suis dit que peut-être que si dans le Nouveau Testament, le parfum était moins mentionné, c'est que parce que nous étions, par notre baptême, eh bien, temple de l'Esprit Saint, hein, réceptacle de la présence du Christ, c'est que nous étions tous justement cet encens, cette agréable odeur offerte à Dieu. Ça va jusque-là ? Ah, maintenant c'est beau qu'elle ait travaillé. Chapitre 4. Les principaux parfums cités dans la Bible. Alors nous allons maintenant, de manière un peu ludique, approfondir justement les principaux. Alors je n'ai pas tout amené, hein, parce que c'est un peu compliqué, puis après les gens enfin, saturent très vite. Hein. Donc j'en ai amené 4. J'ai amené bien évidemment l'encens, la myrrhe, le cèdre et le cyprès. Hein, qui sont ceux qui, en fait, reviennent de manière, je dirais, les plus fréquentes hein, dans les différents textes. Alors, on va vous tremper des mouillettes, et ce soir, vous allez travailler comme des parfumeurs. C'est-à-dire qu'un parfumeur, avant de parler, il sent. Un parfumeur ne sait pas parler, il sait d'abord sentir. Donc, vous allez sentir tranquillement, sans échanger entre vous, hein, c'est important, ça, de façon à ce que, hein, je parlais tout à l'heure de la puissance d'évocation du parfum, hein, de façon à ce que vous laissiez monter en vous ce que ça vous évoque. Alors ça peut être une image, ça peut être une émotion, ça peut être une personne, ça peut être différentes choses, et tout ça c'est très personnel. L'idée c'est pas de décrire le parfum, je sais ce que ça sent. Hein. L'idée c'est de voir ce que ça évoque, ce que ça vous rappelle. hein, ou dans quel état ça vous met, ou voilà, hein, ou ça peut être le rejet de quelque chose de désagréable, de violent, ou au contraire, quelque chose d'agréable. Voilà, hein, vous laissez monter de manière très personnelle ce que ça peut évoquer. Voilà. Alors, je vais avoir besoin de 4-5 personnes, s'il vous plaît.
Elles sont prêtes.
Elles sont prêtes, elles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas combien on est.